les amis de l'archipel Kyocé. Je suis content de vous avoir aujourd'hui dans ce petit enregistrement. L'idée, c'était tout simplement d'avoir une conversation ensemble à destination des personnes qui travaillent dans des entreprises ou d'autres accompagnants ou au final de n'importe qui s'intéressent de près ou de loin au sujet de la RSE. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est en évolution constante et qui bouge très très vite. Et du coup, la question très simple que j'avais pour pouvoir lancer notre échange, c'était tout simplement la RSE en 2024, à quoi ça va ressembler ? Voilà, et du coup la question est posée sur la table, et s'il y a un de vous qui veut commencer à apporter quelques billes par rapport à ça, eh bien faites-vous plaisir. Et ensuite on part dans une conversation ouverte.
Il y a une première chose qui a évolué, c'est que la RSE, même si on a mis longtemps à comprendre ce que c'était, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, c'était en gros trois piliers, l'économie, l'environnement et le social. Les trois grands piliers du développement durable. Ça a évolué, on a mis l'économie de côté, c'est une évidence que les entreprises ou les organisations ne doivent pas faire faillite. Et on a rajouté un pilier, c'est celui de la gouvernance. Donc désormais, la RSE, ça s'associe aux critères ESG, environnement, social, gouvernance, et ceci d'autant plus que l'Union européenne, la Commission, ont mis en place des nouveaux critères, chose un peu complexe, et même très complexe, qu'on appelle la taxonomie européenne, qui engage en particulier les entreprises qui sont des entreprises du secteur financier, et qui ont donc des obligations vis-à-vis de ces critères ESG, environnement, social, gouvernance. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui est importante aussi et que vous connaissez, c'est la CSRD. Donc c'est une nouvelle directive européenne qui est applicable au 1er janvier de l'année prochaine, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et ça amène des obligations pour les entreprises et surtout ça amène plus d'entreprises qui vont avoir une obligation de rapport extra-financier. Donc l'idée, c'est que jusque-là, les entreprises dans le monde entier avaient à faire un rapport financier, en général au moins une fois par an. Et donc, on regardait le bilan de l'entreprise. Désormais, les entreprises, en matière de RSE, ont également un autre bilan à faire sur ces trois critères, ESG. Ça concernait à peu près 12 000 entreprises en Europe. Et désormais, avec cette CSRD, cette nouvelle directive, ça va concerner environ 50 000 entreprises. Voilà, là-dessus, il y a deux sujets. Il y a un bilan de durabilité. Directive, on ne parle plus de rapport extra-financier en fait, de déclaration de performance extra-financière comme c'était le cas avant en France. On a un bilan de durabilité. Ça veut dire qu'il va y avoir des obligations pour les entreprises d'utiliser des matrices précises et pas de faire ce qu'elles veulent dans ce bilan-là. Donc ça devient plus complexe. Il faut s'y prendre plus à l'avance. Ça veut dire qu'il y a peut-être davantage de personnes qui sont concernées dans l'entreprise et que si on n'est pas une très grande entreprise et qu'on n'a pas une directrice RSE, directeur RSE, on va être obligé de faire appel à des consultants externes probablement pour se faire aider. Voilà, on pourra peut-être revenir là-dessus. Et puis une deuxième chose, c'est la double matérialité. Voilà, il y avait des matrices de matérialité qui étaient faites parfois par les entreprises. J'explique rapidement ce que c'est, mais en gros, une matrice de matérialité, c'est regarder quels sont les points importants de la RSE pour mon entreprise et pas seulement pour moi, pour le comité de direction de l'entreprise, pour les gouvernants de l'entreprise, mais pour toutes les parties prenantes. C'est un point essentiel de la RSE, c'est de dire qu'il n'y a pas que la direction qui décide de ce que c'est que la RSE, mais je vais travailler évidemment avec les employés, mais aussi avec mes clients et mes fournisseurs peut-être, et je vais voir quels sont pour eux, et donc pour moi, entreprise, les points les plus importants sur lesquels je vais agir. Et donc ici, la double matérialité, c'est d'abord une obligation de le faire, avant il n'y en avait pas vraiment, et ensuite c'est cette double matérialité, elle regarde les points importants de la RSE pour l'entreprise au regard de l'économie et des finances de l'entreprise. Comment ça va impacter économiquement, financièrement l'entreprise, la RSE et les points saillants qu'on a là-dessus.
Ouais. Si je suis un dirigeant d'entreprise et que je ne fais pas ces choses-là, parce que c'est l'obligation, mais du coup, qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas ?
La RSE est basée sur cette dichotomie-là, sur cette contradiction entre le fait qu'il y en a qui pensent que la RSE, c'est volontaire, et d'autres, donc ça c'est plutôt les grandes entreprises, et qu'elles vont s'y mettre quand elles pourront s'y mettre et là où elles souhaitent se mettre. Puis il y a de l'autre côté, plutôt les ONG, et désormais quand même plutôt la Commission européenne aussi, qui disent que la RSE, ça doit être obligatoire et qu'il y a des réglementations là-dessus. Donc sur certains points, comme la CSRD, il devrait y avoir effectivement des contrôles qui vont être organisés. Et là, sur la CSRD, spécifiquement, ces contrôles, ils pourront être faits par différentes parties. Mais en particulier, la boîte, elle va pouvoir demander au commissaire aux comptes, par exemple, de vérifier ses bilans de déclaration extra-financière, enfin, ce bilan de durabilité, puisque la terminologie a changé. Voilà. Et puis, sur d'autres points de la RSE, des fois, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas du tout de contrôle. Et ça, on se demande à quoi ça sert dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger s'il n'y a pas de contrôle.
coup, l'autre enjeu, l'autre gaffe qu'on peut mettre aussi en face de ça, c'est que il y a quand même une pression de plus en plus forte, même si, parce que là, on parle de du côté bâton, la démarche, mais il y a la pression de plus en plus forte des employés et des salariés, toutes les personnes qui veulent rejoindre l'entreprise sur ces critères-là. C'est de plus en plus les critères qui sont regardés dans la partie recrutement, justement. Et il y a aussi des fuites de personnes qui, du coup, partent parce que l'entreprise n'est pas en accord avec leurs propres valeurs. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ça, sur un enjeu RH, du coup, qui est au-delà du simple côté réglementaire, qui vient faire pression en parallèle.
Si je rentre un tout petit peu plus en détail, on parle de nouvelles normes, du coup, sur 2024. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu les lignes, en fait, sur lesquelles les entreprises vont devoir faire évoluer des choses et potentiellement, par rapport à ces lignes, qu'est-ce que ça implique concrètement et dans l'opérationnel pour eux?
D'abord, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est la loi Pacte, date de 2019. Hein. La loi Pacte, elle a modifié le code civil, en fait, et elle a mis une obligation. Donc, c'est désormais déjà une obligation, pas besoin d'attendre 2024, d'avoir une prise en compte de l'environnement et du social pour un chef d'entreprise. Le code civil a changé. Il n'y a plus que l'objet. Avant, il y avait un objet social d'entreprise. On devait poursuivre un but d'entreprise, un but de performance en général, hein, économique. Aujourd'hui, il y a cette obligation de prendre en compte l'environnement et le social. Et ensuite, on sait qu'avec la loi Pacte, il peut aussi se diriger vers la raison d'être de l'entreprise. C'est le deuxième niveau. Hein. Je vais rédiger une sorte de vertu, enfin de notion philosophique des engagements que prend l'entreprise vis-à-vis d'elle-même et de ses parties prenantes. Et puis après, on peut même passer entreprise à mission. Là. C'est surtout pour ça que la loi Pacte est connue. Il ne faut pas oublier que le premier niveau, c'est que le code civil a changé là-dessus. L'autre chose, c'est pour répondre à la question, hein, bien sûr, il y a la loi Climat et Résilience, qui date de 2021, et qui donne une obligation lorsqu'il y a un appel d'offres qui est lancé par un acheteur public, de prendre en compte au moins un critère de développement durable, au moins un. Alors, c'est à la fois une différence avec le passé, pas vraiment une différence, mais il faut savoir que dans le code des marchés publics, depuis déjà assez longtemps maintenant, l'État a vraiment fait énormément d'efforts et a obligé à ce qu'il y ait des critères qui soient pris en compte de développement durable. Sauf que maintenant, la loi Climat et Résilience, elle est valable pas que pour les marchés publics, mais aussi pour tous les marchés, avec cette obligation-là. Donc, c'est une obligation maintenant pour les boîtes qui lancent des appels d'offres de prendre en compte le développement durable, pour donner deux exemples.
Hein, voilà. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout connectées à tous ces enjeux de développement durable et qui, au quotidien, ne travaillent pas dessus. Du coup, en 2024, par rapport à ces entreprises-là, comment vous imaginez que ça va se passer? Est-ce que ça va vraiment s'accélérer, qu'ils vont tous rentrer dans la danse et du coup s'attaquer à ces sujets-là? Et s'ils n'ont pas les compétences, du coup, ils vont devoir travailler avec des externes pour s'aider là-dessus. Ou est-ce qu'il y a encore un flottement qui peut durer pendant un certain temps? Ou comment vous imaginez un peu les évolutions que peuvent induire ces nouvelles normes en termes d'impact, que ce soit écologique ou pas arriver à limiter en dessous des deux degrés? Est-ce que c'est quoi la répartition entre les grands groupes, les TPE, les PME? Vous avez une idée un peu de ce genre de stats pour savoir en gros qui c'est qui devrait bouger vite et fort pour que ça puisse être corrigé? Disons que let's go 2024, tout le monde bouge. C'est quoi les premiers pas que vous proposez à des dirigeants justement de TPE, PME, ETI, ceux qui n'auraient pas encore commencé à mettre le pied à l'étrier? Ça serait quoi que vous leur proposeriez pour qu'ils puissent facilement se jeter à l'eau? Vraiment dans un comportement exactement comme on peut avoir avec un humain. Si jamais l'humain est contraint par certaines règles, mais qu'il n'y croit pas plus que ça, du coup, c'est pas efficace. Alors que si, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il a fini par intégrer au fond de lui en disant « oui, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire », ça va se faire beaucoup plus efficacement. Et les outils dont tu parlais, cette phase de sensibilisation, cette phase de compréhension des enjeux, des différentes dimensions des enjeux RSE, ça permet de s'imprégner de ça. Et est-ce que, Christophe, sur la partie raison d'être, Tu veux dire un mot? Parce que c'est vrai que c'est quand même une entreprise, c'est une entreprise qui est historiquement là pour générer une économie, pour faire vivre son petit monde en même temps qu'elle produit des services ou des produits. Mais en effet, dans cette logique de 2024 où il faut que tout le monde se bouge, il faut aussi qu'il y ait une couche de raison d'être et d'intention qui soit autre que juste développer une économie.
Oui, parce que c'est un point qui est hyper important et qui est un peu souvent, j'ai l'impression, mal compris. En gros, il y a plusieurs choses qui sont très marquantes. C'est qu'on évolue dans notre société, et notamment avec l'histoire du Covid, vers une grosse perte de sens, en fait, et de repères. Et puis, il y avait ce fameux, pendant le Covid, le fameux monde d'après que tout le monde attendait, en tout cas, beaucoup attendaient, et qui, derrière, est revenu en mode monde d'avant avec du rattrapage à faire, avec du retard qui a été pris. Et donc, du coup, plus d'intensité. Et donc, du coup, on a loupé quelque part le coche à cet endroit-là, alors qu'en réalité, il y a un changement d'organisation qui est en train de se faire. Les organisations habituelles avec un dirigeant qui pousse, ou en tout cas l'économie qui pousse, qui est là, et c'est cette logique-là, avec tous les indicateurs qui sont orientés sur ça, qui était présent, très prégnant auparavant, de plus en plus maintenant, on commence à avoir d'autres critères qui apparaissent et une gouvernance à un peu plus multi-parties prenantes. C'est pour ça que construire la raison d'être, il faut le faire avec un maximum de parties prenantes au centre de la table pour que chacun puisse comprendre son propre intérêt dedans en allant dans ce sens-là. Et ça, c'est hyper important. Et aussi parce que le sujet est devenu tellement complexe qu'on ne peut pas tout seul décider des bonnes actions à faire d'en haut et les diffuser comme ça. C'est plusieurs personnes qui vont réinventer une partie de leur métier en mettant, on va dire, à l'intérieur tous ces éléments-là, tous les critères. Et du coup, ça commence en la sensibilisation, la compréhension des enjeux. Et ensuite, c'est au quotidien où petit à petit, on va changer des choses qui vont aller dans ce sens-là. Et en fait, avec l'action de tout le monde, le changement va être vraiment puissant sans qu'il y ait besoin en haut d'une équipe de déployer une énergie phénoménale. Parce que ça ne marche pas. Et surtout, quand on rentre en frontal avec des gens, quand on est sur la contrainte, y a des gens qui vont se soumettre et d'autres qui vont résister. Et d'autres même qui vont faire du sabotage sur ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, c'est hyper important au niveau de l'accompagnement au changement, de désamorcer un maximum toutes ces résistances au changement. Et il y en aura forcément. Il faut que les mentalités évoluent. Mais du coup, la raison d'être est intéressante là-dedans parce que ça montre qu'on est tous alignés vers cet enjeu-là. Et surtout, si on le co-construit avec les parties prenantes, chacun a pu dire son mot dedans. Et donc, du coup, c'est un objet commun qu'on a qui nous aide à avancer ensemble. Et ça permet de voir un peu l'étoile vers laquelle on veut aller. Et ensuite, on peut choisir des stratégies différentes. Et ensuite, si ce n'est pas très grave, du coup, mais du coup, on peut se coordonner et arriver à faire front en face ensemble. Et on sort de la contrainte, la loi, le département RSE qui manque kikine ou ces trucs-là pour rentrer dans un nouveau projet de vie qui est le projet de la société, dans les deux sens du terme même, d'aller dans une nouvelle direction et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un levier de motivation interne qui est important. Je ne vais pas rentrer en détail des leviers de motivation, mais en tout cas, c'est autre chose. Il y a la motivation externe qui peut être la contrainte, et puis la motivation interne, c'est quand on trouve du sens à ça et que ça nous motive au quotidien.
Si je suis dans la direction d'une entreprise je suis très conscient que pour faire tourner l'activité telle qu'elle est actuellement, ça prend déjà quasiment tout le temps de toutes les ressources que j'ai au niveau de mes collaborateurs. Comment je fais pour pouvoir ajouter cette couche de travail sur la RSE et sur le sens que doit prendre mon entreprise dans cette transition écologique nécessaire.
En gros, dans cette partie-là, ce qui est hyper intéressant, c'est de changer le regard et de se dire que ce n'est pas justement l'équipe RSE, qui est souvent en plus très réduite avec peu de moyens finalement, qui doit faire tout le boulot. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du boulot non plus supplémentaire qu'on va ajouter. C'est qu'on va changer nos pratiques. Donc, il y a un endroit où ce qui est important, c'est que chacun soit déjà à la fois sensibilisé pour qu'il puisse les intégrer et du coup, faire les modifications au fur et à mesure avec des arbitrages qui vont être entre un moment où je suis dans le rush et donc du coup, je fais mon boulot comme d'hab et je suis en mode pilote automatique et à un moment où j'ai un peu plus de temps pour revoir certaines choses ou même au quotidien, je me dis, tiens, ça, je peux le faire comme ça, ça ne me prendrait pas forcément plus d'énergie, mais je vais le tester, je vais voir. Et du coup, ce côté un peu micro-innovation qui m'en sert au fur et à mesure, c'est ça qui va, au fur et à mesure, incrémenter les choses. Parce que si petit à petit, on a des personnes qui font des évolutions et puis d'autres qui en font d'autres à côté, et puis que finalement, ça commence à faire tache d'huile et que ça remonte un peu plus haut, et qu'après, derrière, la RSE, justement, va pouvoir le mettre en avant et diffuser ça à d'autres qui vont pouvoir s'en imprégner et du coup, même peut-être faire de la formation croisée si c'est un peu plus technique ou complexe, ou en tout cas, se partager les bonnes pratiques, faire des groupes de pairs pour partager ça. On devient ce qu'on appelle une communauté apprenante, un groupe de personnes qui vont avancer. Ça lance aussi des projets transverses, ce qui est intéressant aussi pour l'entreprise, que ça décilote et ça permet d'être plus, à la fois de savoir mieux s'adapter, d'être plus innovant et d'être plus résilient face aux problématiques, parce qu'on a des liens transverses qui sont là aussi, présents. Et donc, du coup, c'est une dynamique qui est complètement différente. Et comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ça va aussi un peu bouleverser l'organisation. Et il faut aussi que les dirigeants, du coup, soient prêts à ça, parce que du coup, on n'est plus en train de maîtriser tout, mais on est avec des gens qu'on embarque avec nous qui vont avancer, sachant que ça sera forcément pas toute l'entreprise, une petite partie le fera à fond, d'autres suivront et tout ça, puis d'autres seront réfractaires comme d'habitude. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe dans l'innovation. Mais en tout cas, on tend de plus en plus vers ça, et les organisations de demain seront forcément clabées de cette manière-là et plus vraiment à l'ancienne, sauf sur des choses qui sont très techniques, pratico-pratiques. Le reste, elles vont devoir évoluer.
La RSE, c'est transversal. Ça touche en gros tous les secteurs de l'entreprise. Et dans la norme ISO 26000, qui est la référence en matière de RSE, il y a 25 points d'action. Et donc, si on regarde bien ça, quand on achète l'entreprise, on ne le sait pas, mais on a déjà fait probablement plein de choses en matière de RSE. Parce que de toute façon, la loi, en particulier le droit social en France, est importante. Ça veut dire qu'on agit, que si on a déjà fait un document unique, par exemple, ou si on a des réflexions sur les cyberattaques dont on peut être victime, ou sur le RGPD, sont des notions qu'on rattache rarement à la RSE. Pourtant, c'est typiquement RSE. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une nouvelle loi qui est applicable depuis un mois et demi, au 1er octobre, sur le cyberscore. Alors, on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas eu de décret d'application, mais ça oblige. Alors, ce n'est pas n'importe qui, c'est les grandes plateformes, hein, celles qui ont 25 millions de visiteurs uniques par mois, et bientôt 15 millions seulement. Ça les oblige à avoir comme un Nutri-Score. C'est vraiment la même présentation. Et donc, on regarde si on a des protections des données qui sont efficaces sur le RGPD et si, quand on visite ces plateformes, on risque de se retrouver avec des virus et ce genre de choses. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on voit que c'est hyper large et qu'il est évident, normalement, pour un hôpital, je dis normalement parce qu'on s'est rendu compte au printemps à Lyon que ça n'a pas été le cas, mais normalement, les hôpitaux doivent se prémunir contre les cyberattaques. Or, si on ne le fait pas, on risque de se retrouver hacké, d'avoir un système qui ne fonctionne plus, un système informatique qui ne fonctionne plus, d'avoir, dans le cas des hôpitaux, des patients qui ne peuvent plus être opérés. Donc, ça, c'est intégré à la RSE, parce que la RSE, l'idée, c'est la pérennisation de l'entreprise pour elle-même, pour les salariés qui y travaillent, pour la richesse que ça crée, pour les familles, mais aussi pour le développement du territoire. C'est un truc hyper important. Donc, il y a aussi des notions sociales, économiques, qui peuvent être assez évidentes pour les chefs d'entreprise, et qui sont en raccord total avec la RSE, qui n'est pas juste un truc hyper révolutionnaire à mettre en place, mais au contraire, une logique d'action. Voilà. Et je voudrais juste raccrocher une minute là-dessus par rapport à ce que dit Christophe, parce que j'étais vraiment complètement raccord avec ce qu'il disait. Il y a une étude d'un cabinet de conseil américain qui est faite assez régulièrement, le cabinet s'appelle Gallup. Donc cette étude dit qu'il y a 90% des gens au travail dans le monde, c'est l'étude worldwide, hein, 90% des gens dans le monde qui sont un peu ou carrément désengagés au boulot. Donc, amener du sens au travail, c'est vraiment l'une des solutions. Et ça accroît, alors moi, je n'aime pas ce mot-là du tout, mais ça se discute ou pas, mais ça accroît la performance d'après cette étude, d'après d'autres études qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins critiquables. Mais ça veut dire qu'il n'y a que 10% des gens qui sont super contents d'aller dans leur job aujourd'hui. Et que si on parle, alors le mot encore est utilisé, mais de marque employeur, l'idée d'aller attirer des nouveaux talents, comme disent les RH, ou de fidéliser, amener du sens. Et alors, il y a d'autres choses qui se déclinent, mais c'est hyper important. Et si j'ai encore juste une minute, 30 secondes là-dessus, il y a une étude de l'INSEAD de 2017, donc l'une des grandes écoles de commerce en France, surtout la plus chère, l'INSEAD, qui dit qu'ils ont pris des consultants, ils ont pris des jeunes consultants, ceux dont on peut imaginer caricaturalement que ce sont ceux qui ont les dents les plus longues, les dents qui raillent le parquet, et ils leur ont proposé à ces jeunes consultants d'aller bosser plutôt pour le monde de l'économie sociale et solidaire, des associations, mais malheureusement pour eux de réduire leur salaire, voire de le diviser par deux. Eh bien, à la sortie de ces missions, c'est une longue mission, hein, c'est pas une semaine, hein, c'est 3 mois, 6 mois, à la sortie de ces missions, qui étaient pleines de sens pour ces consultants, on s'est rendu compte que ce sont ceux qui restaient le plus longtemps dans les cabinets de conseil. Donc, ils avaient été fidélisés. Pas grâce au fric, ça c'est sûr, mais vraiment grâce au sens. Alors, chacun trouve un sens différent dans le travail, etc. Ça peut être la tâche que j'accomplis, je suppose, ou ça peut être l'activité globale de l'entreprise, hein, qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Et ça rejoint la discussion d'avant sur l'entreprise à mission, ou en tout cas au moins la raison d'être de l'entreprise à rédiger, etc. Donc je pense que vraiment tous ces domaines sont interconnectés et que peu importe le mot qu'on utilise, RSE ou toute autre chose, ou bien-être au travail, ou voilà, au contraire, travailler sur les valeurs, tout ça, ça fait du bien aux gens en fait. Et je pense sincèrement, sinon je ne fais pas ce métier, ça fait du bien à la terre aussi au passage, quoi.
⁇ 2024, du coup, on continue à se projeter à cet horizon-là. Comment est-ce que vous interagissez avec les entreprises en 2024 comment vous mettez à disposition des entreprises pour pouvoir les aider dans tous ces chantiers? Parce que moi, ce que j'entends je synthétise ce que dit Christophe, c'est que c'est pas quelque chose qui est porté juste par un petit pôle dans un coin qui doit du coup s'occuper de toutes les dimensions en plus de l'activité économique d'une entreprise. C'est quelque chose qui doit vraiment être pris par toutes les parties prenantes et même du coup en coopération avec son système, son écosystème d'affaires aussi autour, avec une dimension de choses à prendre en compte qui est supérieure. Ça me paraît très gros pour une entreprise de gérer ça par elle-même. Du coup, c'est quoi les meilleurs moyens pour leur permettre de faire ces évolutions-là, qui, si je reprends ce que tu disais, Mickaël, a énormément d'avantages, si on réfléchit encore sur une logique d'avantages. Déjà, le principal, c'est que du coup, elles s'intègrent dans une société qui essaye de faire les choses le mieux possible avec le moins d'externalités négatives autour, qui va essayer de proposer aussi un cadre de travail qui est beaucoup plus adapté aux humains et qui n'est pas juste un cadre de production où on vient chercher purement un salaire et ensuite on essaye de vivre en à côté. Je passe les autres avantages que vous avez cités juste avant, mais voilà, avec ce niveau-là de complexité à ajouter à son fonctionnement, comment est-ce que vous essayez de les aider, de les supporter dans cette aventure?
Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Déjà, le point de départ, hein, c'est de comprendre réellement ce qui se passe. Parce que de toute façon, si on n'a pas conscience de ça, enfin, si toutes les différentes parties prenantes n'ont pas conscience de ça, le reste va être très compliqué en effet et peut devenir une montagne à gravir. Pour autant, donc si on passe cette partie-là, alors il y en a beaucoup qui passent notamment par les fresques, en effet. Il y a aussi des conférences qu'on peut proposer pour raconter un peu l'histoire et voir jusqu'où on en arrive et pourquoi on en est arrivé là et vers où on pourrait aller. Et il y a aussi des moments inspirants. Je parle des conférences parce qu'il y a une partie où il y a tout un mouvement vers l'économie régénérative, notamment, qui est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça donne un récit positif de la suite, de l'avenir, et ça nous donne le moment charnière de l'histoire dans lequel on est, sur lequel il y a vraiment un pivot qui est en train de se faire ou qui se fera peut-être pas, on ne sait pas encore. En tout cas, on est à ce moment-là et il y a l'idée de contribuer à cette chose-là. Donc, c'est un peu les grands défis que chaque génération a eu à chaque fois à relever. Et du coup, nous, notre génération, c'est celle-là, c'est celui-là. En tout cas, il y a cet élément-là. Donc, retrouver le sens, ça, c'est hyper important. Ensuite, quand on retrouve le sens, en fait, comme le disait très bien Mickaël tout à l'heure, si aujourd'hui, on a 90% des gens qui sont désengagés et qu'avec ça, on retrouve du sens et donc de la motivation, d'un seul coup, c'est une énergie qui était un potentiel qui devient à disposition, en fait. Et donc, du coup, avec les mêmes personnes, on va obtenir beaucoup plus, en fait, avec une organisation qui va, du coup, apprendre beaucoup plus, qui va changer. Alors, au début, ça peut être un peu déstabilisant parce que les gens ont envie de faire plein de trucs, ça peut partir dans tous les sens, on peut se dire « Ouh là là, je ne maîtrise plus rien », et c'est un peu ça qui n'est pas évident, et c'est là où il faut accompagner le changement. Et donc, du coup, permettre notamment de travailler en coopération. Et donc, du coup, il y a toute la logique de coopération qui va avec, qui sort du cadre habituel. Si on a beaucoup été habitué à être dirigé, c'est autre chose. Et puis, il faut coordonner tout ça pour que quand même ça reste dans le cadre de l'entreprise, qu'on ne perde pas d'objectifs, pas de vue, les objectifs de l'entreprise parce qu'il y a des objectifs économiques qui ont été très bien dit aussi par Mickaël tout à l'heure, qu'il faut garder en tête aussi. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont évoluer et ça veut dire qu'il faut aussi être prêt pour que la suite puisse se faire. Ça veut dire que je suis trop long, ce petit message qui s'affichait. Non, je taquine, je voyais... Mais en tout cas, c'est juste pour dire que du coup, là-dedans, on voit que ça va changer pas mal de choses et que, en fait, on va avoir une force et une énergie collective qui va être beaucoup plus grande. Et d'autant plus si on apprend, je parlais de coopération, à travailler ensemble, donc à rentrer dans le domaine de l'intelligence collective, avec notamment maintenant tous les outils numériques collaboratifs qu'on a, on peut vraiment vite s'organiser et gagner du temps. Et donc, du coup, en fait, c'est le changement de culturel qui va être associé à ça, qui va être hyper bénéfique pour la suite, parce que c'est vraiment un investissement sur la durée, sur le long terme. Par contre, c'est vrai que dans la période où on rentre dans une démarche comme celle-là, si on rentre vraiment sincèrement dedans, tous ceux qui ont fait des parcours de ce type-là, on pourrait par exemple parler de ceux qui ont fait le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, ou qui est plus connu, mais il y en a bien d'autres, tous ceux qui ont fait ça ont été bouleversés et ont commencé à mettre en place des choses, et puis plus ils avançaient dans le programme, plus ils disaient « ouais, mais c'est pas suffisant, il faudrait mettre ça, et puis ça, et puis ça ». Ils ont évolué, ils ont avancé dedans parce qu'ils avaient des prises de conscience, et au final, c'est des gens qui viennent en parler avec passion après. C'est des gens qui viennent même en faire, il y en a qui font des conférences, il y a beaucoup de boîtes qui sont passées même à la formation. Tous ceux qui sont pionniers commencent à maintenant proposer, du coup même, ils ont même un autre modèle économique qui s'est ouvert à côté, il y en a qui écrivent des livres aussi. En fait, ça donne une dynamique extraordinaire. Et donc du coup, c'est vraiment un changement majeur sur lequel, de toute façon, dans les années à venir, les entreprises qui n'auront pas pris le coche vont se retrouver à la traîne, vont rester derrière et éventuellement pourront rester, alors je disais tout à l'heure, sous-traitants et du coup exécuter des choses comme ça, mais en tout cas, elles ne seront pas du tout pionnières sur les sujets, elles ne feront pas non plus forcément beaucoup d'innovation, elles vont forcément être à la traîne parce que ce nouveau mode d'organisation apporte beaucoup et par contre, c'est un changement culturel, donc c'est aussi un accompagnement à avoir sur la durée pour pouvoir que ce changement-là ne soit pas en train de jeter le bébé avec le vivant, c'est-à-dire en gros de déstabiliser les fondations. Donc il faut pouvoir trouver cet équilibre entre les deux et c'est ça qui est le plus gros enjeu de maintenant. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est au début des tensions et qu'elles vont s'accroître après avec tous les dérèglements qu'on connaît, on sait que c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'on est dans la période la plus stable de l'avenir en fait. Donc autant en profiter pour faire ces changements au rythme qui nous convient bien. Mais en tout cas, il faut les engager.
Vu que le sujet, c'était RSE 2024, je sais qu'en 2023, RSE, c'est encore beaucoup lié à justement les rapports dont tu parlais, Mickaël. Tu disais tout à l'heure qu'il va y avoir un rapport en plus qui sera plus exigeant, qui va concerner plus de monde. Est-ce que 2024, 2025, on va encore rajouter des rapports avec encore des lignes à rentrer ? Est-ce que ça va me rajouter encore de la charge en tant que dirigeant d'entreprise? Et question liée, est-ce que je peux me servir de ces rapports comme des vrais objets, un peu comme des checklists pour m'assurer que je suis bien sur le bon chemin pour faire évoluer mon entreprise dans le sens de des évolutions nécessaires de la société, comme expliquait Christophe?
Oui, il va y avoir des nouvelles directives, des nouvelles lois, ça c'est une certitude, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ces lois ou ces directives qui concernent la RSE, en général, elles sont très larges au début et très peu restrictives, avec très peu de contrôle, et qu'elles ont des étapes en fait, et qu'en gros, chaque année ou tous les deux ans, ça va concerner davantage d'entreprises, ça va être plus complexe à faire, comme là, c'est le cas avec le rapport de durabilité, puisqu'on passe de NFRD à CSRD, donc c'est plus complexe à établir. Et elles ont toute cette logique-là. Je donne un exemple, en France, alors moi je trouve l'histoire assez formidable, mais on a été le premier pays à mettre en place le devoir de vigilance. Pour rappel, c'était suite à l'effondrement, il y a quasi jour pour jour 10 ans, hein, enfin en gros un mois après, il y a 10 ans, il y a eu un effondrement d'un immeuble qui s'appelle Rana Plaza, qui était situé au Bangladesh, où on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait énormément de grands vendeurs de vêtements qui étaient concernés par la fabrication de ces vêtements dans des conditions de quasi-esclavage et qui avaient mené à cette catastrophe qui a coûté la vie à 1000 personnes. Le monde entier s'en est ému, mais il n'y a qu'en France qu'il y a une loi, grâce à certaines ONG qui a suivi ce genre de choses. Et donc, cette loi, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui oblige à regarder, donc qui est intégrée dans la loi Sapin 2, qui oblige à regarder toute sa chaîne d'approvisionnement, mes fournisseurs et les fournisseurs de mes fournisseurs, de vérifier qu'il n'y a pas de problématique d'environnement, de droits humains là-dessus. Et c'est pour essayer de répondre à ta question, voilà, même de manière un peu longue, mais l'histoire est bonne à rappeler. Il y a une directive qui est en préparation depuis 2 ans. L'Europe se dispute un peu là-dessus, mais il est quasi certain, maintenant comme ça a évolué, qu'en 2024, il y a une directive qui va sortir européenne sur le devoir de vigilance et qui va obliger encore plus de boîtes à faire attention à leur ligne d'approvisionnement et donc, encore une fois, respecter les droits humains et environnementaux. Donc voilà, ça se met en place. Et oui, heureusement, puisque c'était la deuxième partie de la question, ça aide aussi. Ce sont aussi des manières de travailler. Les lois, pas toujours, mais en tout cas les normes ou les quelques labels qui valent le coup, parce que ça, il faut vraiment faire très attention sur le niveau des labels. Et ce sont des cahiers des charges aussi qui obligent à travailler d'une certaine manière, mais qui permettent aussi d'avoir donc, un cadre de travail qui est plus simple à gérer. Juste pour finir, en quelques secondes, je voudrais quand même rassurer aussi les chefs d'entreprise qui vont sur ces domaines-là. C'est pas si compliqué en fait à mettre en place, grâce notamment à des normes comme ISO 26000 où il y a plein des principes d'action. Mais on n'est pas obligé j'ai parlé de 25 principes d'action, on n'est pas obligé de mettre tout de suite les 25 en application. L'idée, c'est, alors il y a plusieurs manières de voir, hein. Là peut-être que je suis un peu en contradiction avec des choses qu'a dit Christophe juste avant, mais l'idée, ça peut être de dire, c'est l'amélioration continue de la qualité. Donc, je fais un certain nombre de choses maintenant, mais je regarde tous les ans, tous les 18 mois, pour en faire plus, pour accentuer mon action, pour impliquer plus de monde, pour être plus environmental friendly ou social friendly. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses pour certaines entreprises, mais beaucoup sont rassurés par ce genre de façon de faire. Après, il y a d'autres gens qui vont dire, je crée une boîte, et c'est une autre démarche, je n'ai pas une boîte existante, et là, je veux tout de suite être une entreprise à impact ou une entreprise régénératrice, et je vais tout de suite avoir un objectif philosophique qui est adossé à un objectif économique.
Pour moi, ce n'est pas du tout une contradiction, c'est différentes stratégies. Et en effet, je pense que c'est hyper important d'avoir en tête que on peut commencer avec un groupe de pionniers et de volontaires à mettre en place cette démarche-là et du coup à commencer à construire les outils qui vont avec. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt recommandé de ne pas forcément faire branle-bas de combat avec tout le monde parce que c'est trop décevisant, comme je disais tout à l'heure, mais du coup de garder des gens qui vont, déjà il faut avoir un groupe comme à taille humaine parce qu'il y a des liens humains et des choses fortes qui vont pouvoir se faire avec des pionniers comme ça, et puis aussi des aménagements sûrement de poste aussi, parce que quelque part, si on doit faire en plus de son métier quelque chose d'innovant à côté où on fait autrement avec d'autres et tout ça, ça demande aussi de prendre des infos, de faire de bosser sur plein de sur ce domaine-là, donc il faut forcément avoir ça en tête et aménager les postes, mais pour autant, en effet, je pense que je recommande aussi, moi, de commencer par un petit groupe motivé, mais avec les différentes parties prenantes. Donc, c'est là où c'est un groupe transverse. Et ce groupe-là, une fois qu'il aura testé des choses, mis en place, il peut y en avoir un deuxième, un troisième qui se coordonne. Et puis, quand ça prend de l'ampleur, on peut augmenter et faire des changements plus profonds dans la boîte. Donc, ça, c'est important parce que derrière, il y a, au fur et à mesure que les pionniers vont avancer, ils vont aussi construire les outils qui vont bien avec et mettre en place toute cette logique collaborative dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, ils vont pouvoir aussi, s'ils doivent augmenter au reste de la boîte, transmettre eux-mêmes en interne à d'autres et donc du coup faire de la formation pair à pair, ce qui est aussi hyper intéressant en interne et en termes de valorisation des personnes qui se sont engagées au démarrage, quoi. Donc on a cette évolution, enfin, c'est pas une évolution radicale, donc merci d'avoir mis ça en avant, Michael, parce que c'est pas du tout au tout qu'on va tout changer du jour au lendemain, ça c'est pas possible, ça n'arrive jamais comme ça. Par contre, avoir des volontaires au démarrage, ça c'est hyper important, et c'est pour ça qu'il faut bien identifier les personnes qui vont être les plus motrices dans ce genre de démarche-là, au début.
Enfin, sans transition sur la dernière question que j'ai envie de poser pour être vraiment très actionnable à la fin de ce petit échange. Je pense qu'on a bien compris que l'état actuel déjà des choses, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de ce qui se joue et de ce qui va se jouer. Et donc, il y a X outils de sensibilisation, de découverte, de partage d'informations qu'on peut trouver soit en ligne, soit avec des fresques, soit avec des conférences, soit avec des podcasts, soit voilà, il y a plein de choses qui peuvent être sur cette dimension-là. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma dernière question, c'est OK, donc, moi, en tant que dirigeant, je me suis sensibilisé, je suis prêt à passer l'action, je suis peut-être passé par un parcours comme la CEC ou autre. OK, ça, c'est bien, je fais partie du mouvement Impact France ou autre chose comme ça. Au niveau de mes équipes, ils ont fait des fresques, on a découvert un petit peu les choses, on est conscient aussi de tout ça. C'est quoi les 3-4 prochaines étapes très concrètes qui peuvent être activées? Et puis, je veux bien entendre chacun de vous en détacher, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes étapes et ça propose deux types de scénarios différents.
Alors, c'est quand même difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de l'entreprise, de son secteur d'activité, de pas mal de choses. Hein. Ça concerne quand même davantage des boîtes qui vont produire que des boîtes de services, ce genre de réponse. Moi, j'ai envie de dire quand même, ça va dépendre, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend du niveau de maturité, ça dépend des objectifs. Maintenant, il y a des entreprises, je donne un exemple pour que ce soit plus clair, des entreprises qui ont changé complètement de modèle économique, ça aussi, Christophe le disait tout à l'heure, comme Michelin, qui ne vendent plus, alors en particulier, elles vendent encore des pneus, hein, ces entreprises, mais voilà, Michelin ne vend plus de pneus à Airbus ou aux très grands camionneurs. Il va vendre un service en fait. On vend un service qui fait que je loue un service et je donne la possibilité à l'entreprise qui achète ce service d'avoir la certitude que les pneus sont toujours en bon état, que les pneus sont toujours hyper bien gonflés parce que je mets quelqu'un à disposition pour le faire et donc que je vais faire des très grosses économies. Un pneu bien gonflé, c'est 12% au moins d'économie sur l'essence. Quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple de changement de modèle économique. Mais on n'est pas obligé du tout d'en arriver là. On peut juste dire qu'on a atteint une maturité RSE et qu'on a bien pris en compte, plus que précédemment, des données sociales qui sont inclusion, diversité, parité. Il y a quand même une très grosse réflexion homme-femme en France encore aujourd'hui à avoir, je pense. Moi, je considère ça pour une raison, c'est qu'au-delà des chiffres qu'on pourrait donner, il y en a beaucoup importants, mais c'est qu'on parle de 50% de la population quand même quand on parle des femmes. Voilà, donc et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'on a vraiment fait d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de la gouvernance? On n'en a pas beaucoup parlé là, mais la gouvernance, c'est aussi c'est deux choses différentes. C'est le gouvernement de l'entreprise tel qu'il définit une stratégie RSE. Donc là aussi, il va falloir un moment pour que l'entreprise bascule vraiment, qu'elle réfléchisse à la stratégie même qu'elle mène. Et puis, deuxièmement, c'est la gouvernance telle qu'elle est constituée. Est-ce qu'il y a, quelle est l'inclusion vis-à-vis des personnes qui sont représentées au sein des comités de direction, etc. Bon, ouais, j'ai répondu de manière un peu large et... Mais je ne saurais pas le faire autrement.
En tout cas, je note le côté de ça dépend et qu'il faut forcément du coup que l'entreprise passe par une phase d'analyse de là où elle en est, de mise en paramètre de toute son organisation et que ça, soit elle le fait toute seule si elle a les ressources internes, soit sinon c'est quand même le moment assez intéressant pour le faire avec... avec de l'externe et de l'expertise sur ces sujets, sur ce processus d'analyse et de diagnostic de la boîte, quoi. Ok.
Du coup, ça, c'est le point de départ qui est hyper important. J'aurais dit la même chose de toute façon aussi sur s'adapter parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite qui existe. Hein. Ce n'est pas une solution magique et ça y va. Il y a forcément une adaptation, notamment au degré de maturité, au milieu et à tout un tas de choses de l'entreprise et puis tout ce qu'elle a fait aussi auparavant parce que... En effet, comme disait Mickaël, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, malgré ce qu'elles peuvent croire, ne partent pas de zéro, ou d'autres qui peuvent croire qu'elles ont fait beaucoup de choses très avancées et qui sont finalement peut-être pas le cœur du sujet, notamment en termes d'impact que ça peut avoir. Donc, c'est important toujours de commencer par là et de voir, de comprendre bien l'existant. Et quand on a fait le point là-dessus, déjà, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut tout de suite améliorer, mutualiser et autres. Donc, c'est intéressant parce que directement, on peut déjà partir sur de l'existant et améliorer l'existant. Mais après, il y a cette démarche dont je parlais tout à l'heure qui est d'embarquer les différentes parties prenantes. Et donc là, clairement, moi, toujours, ce que je recommande, c'est de commencer par identifier ces personnes qui vont être les plus volontaires ou en tout cas, peut-être commencer par ouvrir quelque chose de large si on ne les connaît pas et de voir émerger naturellement ces personnes-là. Et une fois qu'on les a, c'est avec ce groupe-là qu'on va avancer et qu'on va pouvoir lancer la démarche pour faire du pas à pas. Et quelque part, si je veux prendre un parallèle qui est peut-être plus connu, c'est quelque part, c'est comme si on faisait une démarche d'intrapreneuriat multipartie prenante. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui vont devoir tester autre chose, faire autrement et travailler ensemble avec un vrai groupe de travail du coup et tout ce qui va avec, des réunions régulières et autres, mais qui vont aussi avoir cet objectif de garder en tête les contraintes économiques derrière et de pouvoir amener quelque chose d'hyper opérationnel. Quoi. Et donc du coup, ça c'est intéressant parce que d'un seul coup, on relie un aspect environnemental, un aspect social dedans à cette dimension économique. Et donc, on revient aux origines de la RSE, de pouvoir associer ces trois dimensions-là, ce qui est souvent, c'était pas fait comme ça, c'était plutôt avant, les deux autres dimensions embêtaient le côté économique, alors que là maintenant on va travailler main dans la main avec, et on prend ces trois critères-là et on avance ensemble. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça. Et quand on a des personnes qui vont bien et qui sont bien motivées, au fur et à mesure, en fait, on est en train de construire des leaders pour le changement de demain qui va se faire à plus grosse échelle et en mode tâche d'huile, quoi. Et donc, ça va se faire au fur et à mesure, petit à petit, de manière incrémentale. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé de le faire de cette manière-là.
Merci, Christophe, pour ces apports. Merci, Mickaël, pour le point de vue aussi avec les études et d'autres apports de l'ordre de l'information et de la connaissance sur les sujets. Je ne tenterai pas de faire une grosse synthèse complète de tout ce qui a été dit, mais dans les grandes lignes quand même, la RSE en 2024, ça va être pour plus de monde avec des obligations qui seront plus resserrées. Ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. On est dans une situation où il y a des urgences si on ne veut pas complètement avoir une dégénération de la société. Donc, une réaction en face qui mérite d'être de plus en plus pressante. Moi, ce que je pense qui est important de garder de ce que vous avez dit, c'est que ce n'est pas forcément compliqué ou trop complexe et que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit se rajouter purement en plus sur l'activité économique, mais qui va venir se mélanger avec cette activité qui est pour l'économie et qui va, justement, en se mélangeant, rendre l'entreprise plus intéressante en termes de recrutement, de marque employeur, de sens. Qui va du coup rendre aussi les personnes plus dynamiques par rapport à l'activité d'entreprise, plus intelligentes aussi d'une certaine manière, parce qu'on va ajouter des dimensions qui n'étaient pas encore présentes, mais qui vont faire aussi évoluer l'entreprise. On parlait de l'économie circulaire qui est, mine de rien, quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place tout de suite, mais en tout cas, quand c'est en place, il y a d'énormes gains et avantages, notamment économiques, avec des preuves à l'appui aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est vraiment une opportunité, je trouve, de rentrer dans une vraie évolution, un vrai changement profond d'une organisation, sans forcément se dire que ça va être trop lourd. Il faut juste savoir se faire, mine de rien, accompagner sur les bons moments, que ce soit pour du partage de connaissances, de la découverte au tout début, si on ne l'a pas encore fait, que ce soit pour la partie plus diagnostic et adaptation de scénarios d'évolution possible et au plus juste sur cette phase-là de diagnostic. Et puis derrière, après, il y a vraiment tout un petit monde pour pouvoir venir activer, comme tu disais, Christophe, des démarches qui vont incapaciter les gens en interne, qui vont pouvoir débloquer de l'intrapreneuriat et des projets qui, du coup, ne vont pas être juste là pour de l'innovation purement économique, mais pour de la transformation de l'entreprise de l'interne. Super, merci à vous pour tous ces partages. Si vous avez un dernier mot ou un dernier truc à dire, faites-vous plaisir et puis on coupera juste après.
Une toute petite chose informative, il y a un nouveau portail de la RSE. Alors c'est encore une version bêta, mais c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Ça s'appelle le portail RSE tout simplement. Et les entreprises peuvent aller là-dessus pour voir quelles sont notamment les législations qui les concernent en matière de RSE. C'est en train de ça devrait fonctionner assez bien dans quelques temps.
Super. Donc un vrai portail porté par le national et l'institutionnel pour pouvoir donner toutes les informations aux entreprises.
Le côté opportunité que tu as mis en avant à la fin, je trouve que ça qui est extraordinaire, c'est que moi je suis hyper enthousiaste sur le fait qu'on soit vraiment à une époque charnière de la civilisation humaine sur laquelle on se rend compte de certaines choses qui vont nous faire basculer sur autre chose. Et on est en cours en fait, on est là-dedans. Et on a eu des grands changements qui sont produits avant, on n'avait pas connaissance de ça. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, on commence à conscientiser là où on en est, notre responsabilité qui est dedans. Et donc du coup, au lieu de prendre ça comme un côté pénible en fait et contraignant, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se reposer des questions sur les bases. Est-ce qu'on a envie de développer? Est-ce qu'on a envie de voir apparaître? Et on est en train de courir. Il y a plein de gens qui se plaignaient que c'était une course, que c'était compliqué, qu'ils avaient besoin de sortir de tout ça et qu'il y avait une perte de sens qui arrivait. Bah, d'un seul coup, on a cet aspect-là qui nous donne vraiment une vraie direction intéressante et un vrai rôle à jouer sur cette, sur cette planète, en fait, avec des choses à faire et un rapport au vivant, parce qu'on n'a pas dit jusque-là, mais à remettre et à réintégrer et du coup à revenir, à retrouver une place. Donc, il y a un côté, Mickaël a tout à l'heure dit le mot philosophie, un côté où on retrouve sa place dans ce monde-là et on contribue à plus grand que soi. Et je trouve ça hyper chouette de trouver ça et d'avoir cette dimension qui est présente maintenant. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'enthousiasme et je trouve ça quelque part beau ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Le rapport au vivant et toute cette beauté d'un entrepreneuriat connecté avec les besoins de la planète, je pense que ça pourrait être un autre sujet si on voulait ouvrir plus largement. Merci encore à vous et puis à bientôt pour d'autres contenus utiles dans le sens du vivant.